d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir sur Fréquence Paris Pluriel, vous êtes sur Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, animée ce soir par des journalistes du PIAF et des militants d'Attaque. Et nous allons commencer par une première chronique d'actualité sur l'écologie libérale. Alors, au G7 de Biarritz, Emmanuel Macron a annoncé que la France suspendait sa signature de l'accord de libre-échange avec le Mercosur face aux incendies criminels subis par la forêt amazonienne et encouragés par la politique du président brésilien Bolsonaro. Ainsi, notre président devenait une fois de plus le champion de l'écologie. Alors revenons sur cet accord de libre-échange avant de discuter de l'écologisme de Macron. C'est un accord entre l'Union européenne et le Mercosur, qui est la zone de libre-échange des pays du Sud de l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Il a été signé le 28 juin, après 20 ans de négociations. Et comme souvent, ces négociations ont été très opaques, au bout de 20 ans, le mandat des négociateurs européens n'est encore pas officiellement connu. On le connaît depuis peu de temps, grâce à des fuites. La motivation de cet accord de libre-échange, c'est que les États du Mercosur ont des droits de douane très élevés, de l'ordre de 30%, et des marchés peu ouverts. Par exemple, les voitures importées d'Europe ne représentent que 2% du marché automobile. C'est-à-dire que ces pays préfèrent vendre des voitures d'usines européennes, mais implantées localement. Les milieux d'affaires européens poussaient donc fortement à un accord, tandis que l'agro-business sud-américain poussait à un accord pour exporter plus de produits vers l'Europe. Pour résumer très grossièrement cet accord, on sacrifie l'agriculture européenne pour offrir des marchés à Vinci, Veolia, Peugeot, Citroën, etc. Alors que Macron s'oppose à cet accord, c'est une bonne nouvelle pour l'environnement et pour notre agriculture. Mais pourquoi le faire aujourd'hui? Non seulement la politique écocide de Bolsonaro ne date pas d'aujourd'hui, mais les conséquences néfastes de cet accroissement du libre-échange ont été largement signalées bien avant. En juin, par exemple, plus de 340 organisations de la société civile européenne avaient appelé à rompre les négociations au nom de la défense de l'environnement et des droits humains. Macron, lui, avait qualifié l'accord en juin de « bon accord » en disant qu'il y avait des clauses dedans qui étaient supposées contraindre le Brésil à respecter ses accords climatiques et que, grâce à cet accord, on replanterait 12 millions d'hectares de forêt en Amazonie, comme si Bolsonaro avait caché ses intentions de déforester l'Amazonie. Alors, en admettant que Macron soit de bonne foi, quelle est la portée de sa déclaration? D'un point de vue technique, l'Union européenne et le Mercosur ont juste signé un accord de principe. Donc, Macron ne peut pas stopper le processus de ratification maintenant, puisque ce processus de ratification n'a pas encore commencé. Dans le calendrier de ratification, ce n'est pas avant mai 2020 qu'il aura l'occasion de s'opposer formellement à l'accord. Et là, il a deux possibilités, selon que l'accord relève de la compétence exclusive de l'Union ou d'une compétence mixte, c'est-à-dire partagée avec les États membres. Si c'est une compétence mixte, la France peut mettre son veto et faire tomber à l'eau l'accord. Si c'est une compétence exclusive de l'Union, la ratification se fait à la majorité qualifiée, c'est-à-dire que Macron, pour pouvoir s'opposer à l'accord, doit rassembler une minorité de blocage au sein du Conseil européen. Et là, on a un précédent qui est plutôt de mauvais augure. Vous vous souvenez, quand l'Union européenne a relancé les négociations avec les États-Unis pour un traité de libre-échange, Macron avait joué les matamores en disant « jamais on ne négociera avec ces gens qui ne respectent pas l'accord de Paris sur le climat ». Sauf qu'il avait bien pris soin de ne pas constituer de minorité de blocage. Comme ça, il a été le seul à dire non et les négociations ont pu être lancées pour le plus grand bonheur de gens dont Macron sert les intérêts et qui ont financé sa campagne, les actionnaires de Vinci, de Bouygues, de Veolia et compagnie. Bref, pour l'instant, la déclaration de Macron peut avoir une portée symbolique et ça a son importance en politique, mais c'est en 2020 qu'on pourra juger de sa volonté réelle de ne pas ratifier cet accord. Pour l'instant, la déclaration de Macron apparaît surtout comme une opération de communication, s'afficher en écolo, et une tactique qui vise d'une part à calmer l'opposition croissante à l'accord avec le Mercosur, y compris parmi ses propres troupes, et d'autre part à faciliter la ratification du CETA par le Sénat en opposant le bon CETA au mauvais traité Mercosur. Le CETA, je vous rappelle, c'est l'accord de libre-échange avec le Canada qui a été ratifié par l'Assemblée nationale en juillet. Et dans cette opération de communication, Macron a trouvé en Bolsonaro le parfait méchant qui lui permet de se verdir à peu de frais. Et pourtant, la déforestation de l'Amazonie, qui est en cause, n'a pas commencé avec Bolsonaro. Pourquoi on déforeste, et pas seulement en Amazonie? C'est pour produire notamment du soja, de l'éthanol, du bois, des minerais. Alors prenons le cas du soja. La surface consacrée au soja au Brésil a quadruplé en 20 ans. Et c'est du soja OGM à 93%, arrosé de pesticides, dont la plupart sont interdits en Europe tellement ils sont toxiques pour les paysans et pour l'environnement. Et si les Brésiliens produisent autant de soja, c'est pas pour eux, c'est pour l'exportation, c'est parce qu'il y a une demande. L'Union européenne produit très peu de soja, et ses importations ont quintuplé depuis le début des années 70, en provenance principalement du Brésil, d'Argentine et des États-Unis. Le soja brésilien, c'est 60% du soja importé en France. Pour vous donner une idée des quantités, Greenpeace a calculé que pour produire localement les 3,5 millions de tonnes de soja importées chaque année en France, il faudrait toute la surface agricole de 3 départements bretons. Mais alors, pourquoi on a besoin autant de soja? Bien, parce que pour doubler le rendement de nos bovins, on les nourrit avec du maïs et du soja, au lieu de leur donner de l'herbe et du foin. Et donc ça fait qu'on a des vaches qui produisent 10 000 litres de lait par an, au lieu de 5 000 environ, quand on les nourrit simplement dans le pré et avec du foin en hiver. Et ça, ça a des conséquences en Amérique du Sud, avec la déforestation, mais aussi chez nous. C'est des conséquences, c'est la fragilité économique des paysans qui dépendent de ces importations, et le pompage de l'eau par les champs de maïs qui provoque des crises hydriques. Donc le problème n'est pas que Bolsonaro, et il vient notamment de notre modèle agricole productiviste. Alors on pourrait aussi parler de nos importations d'éthanol, de nos importations de minerais de fer, de bois coupé, parfois de manière illégale. C'est-à-dire que non seulement l'Europe importe les produits de la déforestation brésilienne, mais ses propres firmes y participent, soit directement, en étant présentes sur place, soit en investissant. Et le champion du domaine, c'est la BNP Paribas, qui finance les quatre géants des matières premières, ADM, Bunge, Cargill et Louis Dreyfus. Donc tout ça rejoint une note d'Oxfam du mois d'août qui disait, je cite, « Près de la moitié des émissions mondiales de gaz à effet de serre provenant de la consommation peuvent être attribuées aux 10% de personnes les plus riches. De ces émissions, 77% sont générées par les 10% les plus riches des pays du G7. La moitié de la plus pauvre de l'humanité est responsable de 10% seulement des émissions à l'échelle mondiale. » Donc, la pollution, c'est, elle a lieu partout et elle vient surtout du Nord. Alors, il ne suffira pas d'un coup d'éclat de Macron au G7 pour cesser la déforestation. Il faut changer de modèle et notamment de modèle agricole. Contrairement à ce qu'il affirme, c'est la logique même du libre-échange qui est à revoir. Dans une note publiée par Attac et la E-Tech, Maxime Combe et Amélie Cannon font cette proposition. Interdire l'importation de produits issus de la déforestation. Cesser de soutenir les investissements européens qui contribuent à la déforestation, inclure des normes environnementales dans les accords commerciaux, sortir l'agriculture des règles du commerce, sanctuariser la forêt amazonienne, faire appliquer le devoir de vigilance qui impose théoriquement aux entreprises de contrôler leurs fournisseurs et désintensifier notre agriculture. Et simplement avec ces mesures, on pourra faire un pas vers peut-être la fin de la déforestation de l'Amazonie. Et puis si vraiment on poursuit dans cette destruction de la planète, eh bien peut-être qu'il faudra se préparer à la fin du monde, et c'est ce que Pierre va nous expliquer.
Cette semaine, dans la presse dominante, on a vu un paquet de dossiers où on voit des gentils dîners qui, un matin, plaquent des boulots bien payés à Paris pour aller changer de vie dans une petite ferme isolée, en devenant des paysans ruraux alors qu'ils étaient jusque-là citadins. Alors, est-ce que c'est un retour des 70, flower power, communauté, panier en retache, mes affaires? Non, ils construisent leur vie sur la conviction que le monde dans lequel ils vivaient va s'effondrer. Et ce monde dans lequel ils vivaient, il y a grande chance que nous y vivons, vous et moi, qui écoutons cette antenne sur Paris. Ce monde qui va s'effondrer d'après eux, on les appelle les collapsologues, c'est ce monde industriel dans lequel est plongée l'Europe, mais aussi une bonne partie du monde à présent. Quel coin du monde vit encore de sa propre production de nourriture et porte de vêtements faits à la main pas trop chez lui, trop loin de chez lui? Ça compose évidemment des continents entiers à cette réponse, mais de moins en moins de monde. Alors, il y a un texte qui rassemble en France ces collapsologues, c'est une tribune en Libération en 2017, écrit par le ministre de l'Environnement, l'ancien ministre de l'Environnement qui s'appelle Yves Pochet, élu Europe Écologie Les Verts, qui a toujours qu'on complète son travail, et qui prédit avec toute la conviction et sa voix grave que la fin du monde tel que nous le connaissons va arriver en 2020-2030 à tout casser. Puis il y aura un intervalle de survie de 10 ans, et puis, on peut se rassurer pour l'humanité, il y aura le début d'une renaissance vers 2050. Alors, il prédit pour 2030 épidémie, famine, guerre, manque de ressources énergétiques, alimentaires, des années de survie sur précaire, des humains violents, des guerres, la moitié de la population qui disparaît mondiale.
Ils ont pompé dans la Bible, là.
Alors, ils ne sont pas tout seuls, il y a pas mal de gens qui commencent à les croire, et en plus, ils ajoutent que c'est trop tard pour faire marche arrière. Et pour lui, la première étape, c'est pour 2025, même carrément. Alors, j'ai pas l'air de convaincre grand-chose autour de cette table, mais peut-être à l'antenne. Et pourtant, c'est des collapsologues plutôt sympathiques, hein, des traders devenus fermiers, choisissant des fermettes près de points d'eau pour ne pas manquer d'eau quand la crise arrivera, qui reviennent pour parler d'entraide, l'entraide qu'on connaît dans certains villages, peut-être pas tous, mais du plaisir de manger sainement ce qu'ils ont fait, d'élever autrement leurs enfants, toujours pas convaincus non plus. Alors, il y a quand même une phrase concrète dans la tribune d'Yves Cochet qui, pourtant, n'est pas beaucoup chargée d'arguments, c'est « Y aura-t-il de l'électricité en Île-de-France en 2035 ?» Cette question, elle peut vous interpeller. Alors, elle m'a beaucoup interpellé hier matin, parce que mon réveil n'a pas sonné à 6h40. Plus d'électricité dans le quartier, pas plus dans mon appartement, ça veut dire obscurité totale, froid, absence d'eau, chaude de café, téléphone portable non chargé, plus d'internet, plus de téléphone fixe, coupé du monde pour s'habiller, s'habiller à l'eau froide.
Mais si ça s'était produit plus tôt, Claude-François serait toujours vivant.
Peut-être, peut-être. Oui. Ah, quelle belle pensée. Mais seul un appareil de fondue au chocolat et une lampe torche m'ont donné l'impression que je maîtrisais quelque chose à ma vie. Alors, je suis allé voir un peu plus près du côté des arguments de ces collapsologues qui se vendent de nombreuses études scientifiques solides et même parfois convaincantes. Hein, ils s'en vendent de ça. Alors, dans les années 70, il y avait un fameux rapport qui s'appelait le rapport Meadows, qui s'appelait les limites de la croissance, qui a un peu lancé l'esprit forward power, et qui parlait déjà de la date de 2030 pour l'effondrement. C'est même évoqué par Gene Roddenberry dans la série Star Trek, très power power. Bon, il prévoit des guerres entre pays écolos, pays non écolos, dans la dizaine d'années qui vient devant nous. Bon, on ne les croira pas. Et il y a des gens un peu plus récents, comme Pablo Servigné, qui est auteur de Nourrir l'Europe en temps de crise, en 2015, et de Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. En 2015 également, je peux noter que c'est des bons succès en librairie qui ont même des rééditions cette année. Eh bien, bon, je n'ai pas appris tant de choses en feuilletant, mais voici une liste de points que vous avez peut-être, comme moi, entendu parler, mais qu'il faut les mettre les uns à côté des autres pour voir comment on rigole. Par exemple, notre industrie numérique, basée sur les métaux rares. Hein, on a un pic potentiel où on n'arrivera plus à produire à prix correct et où on n'arrivera plus à avoir son dernier iPhone 33 en temps réel. Alors, imaginez votre vie sans réseau.
La solution est dans la question, c'est que tout le monde va se suicider s'il n'y a plus d'iPhone.
Exactement. Sans réseaux sociaux, il y a une partie sociologiquement d'une ville comme Paris qui s'effondre. Les gens ont basé leur vie sur ça. Alors bon, on arrive à convaincre qu'ils peuvent survivre. On y arrive. Bon, je passe au point suivant. Bien entendu, le taux de CO2, tout le monde connaît, l'augmentation de température, la disparition d'îles au fin fond de la Polynésie, ça vous touche peut-être pas, mais imaginez la montée de cétacés qui va déverser de l'eau froide dans le Gulf Stream, qui peut se déplacer. Je sais pas si vous savez que Montréal, par exemple, est situé 4 degrés au-dessous de Paris. Hein, et pourtant, on a 12 degrés d'écart de moyenne entre les deux villes. C'est uniquement dû à ces courants qui sont tendance aujourd'hui à s'effacer pour ne plus venir alimenter en chaleur l'Europe. Donc finalement, le réchauffement en Europe, on aura peut-être l'inverse. On a tellement modifié les écosystèmes qu'on parle, dans le XXIe siècle, d'anthropocène, de système où c'est l'homme qui est le principal vecteur du changement.
Franchement, promener son mammouth, c'est une autre gueule que promener son caniche.
Tout à fait, mais on peut voir qu'il y a même des zones où il n'y a pas de mammouth, il n'y a rien. Par exemple, dans les océans, il y a des zones mortes. En gros, il n'y a plus assez de vie. Ça a passé à l'envers, tout est décédé à cause de par de pollution où la vie ne peut pas arriver à reprendre la place. L'Europe a perdu la moitié de sa population d'oiseaux en 30 ans. Les abeilles, qui sont quand même essentielles, meurent dans les ruches, disparaissent de 30 à 50% en moins chaque hiver dans certains coins. L'Europe a perdu 60% de ses vertébrés depuis 1910, 75% de ses insectes depuis les années 90. C'est quand même des chiffres qui laissent songeurs sur ce qui nous reste devant nous. Alors, je ne vous parlerai pas d'économie, on vient d'en parler, on sait que tout peut s'effondrer d'un matin à l'autre, on en parle souvent dans cette émission. Si on parle de santé, il y a un chiffre qui est assez rigolo que j'avais jamais entendu parler, enfin, quand je parle de rigolo, c'est même thème, le bruit qui nuit gravement à la santé des Franciliens, et c'est pire que ça, c'est que ça nuit à la survie des Franciliens, avec 38 mois de moins en vie perdus au son. Pourquoi ? À cause du stress permanent, à cause de la capacité de ne pas dormir la nuit. Je cite ici un article issu d'une analyse sur une énorme quantité de personnes à travers l'Île-de-France, une grande étude qui vient de sortir sur le monde tout à l'heure. On connaissait aussi le fait que la pollution parisienne fait une différence d'espérance de vie d'un an plus faible en Île-de-France qu'ailleurs. Là, c'est un dernier point que tout le monde connaît, c'est le fait qu'on est fondé sur l'énergie fossile pour l'ensemble de notre activité économique, l'uranium pour le reste. En France, le pétrole permet de faire rouler les tracteurs de la FNSEA, mais aussi peut-être de certains paysans qui en ont besoin pour leur production. N'empêche que si on se retrouve avec moins de pétrole, comment va-t-on nourrir l'Europe ? C'est un des bases mêmes du livre de Pablo Servigne. Mais c'est aussi un impact sur tous les transports, le chauffage, l'électricité. Le côté uranium, la peur, c'est l'explosion. C'est aussi tous les matériaux et les combustibles irradiés qui pourraient faire fuir des populations qui arriveraient où ? Dans les campagnes, il n'y a pas de quoi les accueillir. Donc toute cette peur de une guerre de population n'est pas impensable. Mais là où c'est un peu plus pathétique, et c'est un exemple qui nous semble assez présent, c'est qu'est-ce qui a fait démarrer ce mouvement fort sympathique des Gilets jaunes. Il n'était pas si sympathique au démarrage, parce qu'on avait l'impression que c'était des gens qui râlaient pour leur bagnole. Mais finalement, leur bagnole, c'était leur façon de vivre, c'était tout leur système de vie qui s'effondrait avec l'augmentation du prix de leur combustible. Imaginons un cran de plus de manque d'essence. Alors, c'est peut-être aussi tout simplement leur économie qui s'effondre, mais quel est l'énervement potentiel d'un Français moyen sans voiture ? On a vu ça en novembre. On peut imaginer facilement une certaine violence, comme les collapsologues nous le prédisent pour les années à venir. Mais bon, ce qu'il y a de positif chez les collapsologues, c'est qu'ils rejoignent des grands auteurs de science-fiction, Jean-Robert Merck dans Malville, Barjavel pour Ravage, etc. Mais pour eux, il y a une après-crise. Et après toute cette hécatombe, il y a un moment où l'humanité se relève, plus belle, plus solidaire, plus proche de sa planète. Toujours pas convaincu sur cette notion de collapsologie. Bon, je suis pas totalement non plus convaincu. Il est sans doute peut-être possible d'inverser une partie de ces chiffres. Les gens vont pouvoir prendre conscience. D'ailleurs, moi, à la cantine, je trie mon plateau. Hein, je mets les crevettes de Madagascar d'un côté, le poulet polonais arrosé de patates au pétrole de l'autre. Mais sans rire, dans l'obscurité de mon appartement sans électricité, en lisant à la lumière d'une pile électrique chargée de métaux polluants, j'ai commencé un peu à croire à cet effondrement.
Eh bien, quand nous aurons achevé de détruire la planète, peut-être que le monde sera un monde de désolation, un peu comme ce que décrit Chico Buarque dans Suburbio.
Lá não tem brisa, não tem verde azuis, não tem frescura, nem atrevimento lá, não figura no mar.
Bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission Mode d'emploi, animée aujourd'hui par une équipe de militants intermondialistes d'Attaque et de journal Le Piaf. Et nous passons à une nouvelle chronique, une chronique qui initie une série sur l'idéologie du capitalisme par Alex, bien sûr. Aujourd'hui, le capitalisme à visage humain.
Alors, aujourd'hui, je vais commencer par un peu l'actualité. Hein. Piketty, là, jeudi, vient de sortir un nouvel opus, Capital et idéologie. Évidemment, j'ai pas eu le temps de les lire. Machin fait 1236 pages. Et il a droit à une énorme couverture, enfin, une grosse couverture médiatique. C'est dans l'air, France Info, bientôt France Culture. Et évidemment, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi il a droit à une grosse couverture médiatique. Parce que quand même, le type, il critique le capitalisme, il dénonce les politiques libérales qui ont été menées depuis les années 1980, qui ont conduit à une hausse des inégalités, et il n'est pas forcément très apprécié des médias dominants, des journalistes, des médias dominants. D'ailleurs, il y en a qui se lâchent. Bon, pour citer un journal tendance à droite, Valeurs Actuelles, le traite de bolchevisme, il parle de bolchevisme à visage humain en parlant de lui. Et logiquement, je me disais que des journaux comme Valeurs Actuelles, mais aussi des médias dominants, devraient descendre en flèche ce genre de bouquins, ou alors les ignorer, comme on a ignoré le livre de Juan Branco, Crépuscule. Mais non, car Piketty est une star. Plus de 2 millions de bouquins vendus pour son précédent ouvrage, Le Capitalisme au XXIe siècle, 1 million aux États-Unis, 600 000 en Chine. Donc en fait, Piketty, c'est un produit d'exportation, c'est le symbole de l'excellence française. Et évidemment, un patriotisme économique et culturel se doit de soutenir quelqu'un comme Piketty. Mais c'est un peu emmerdant parce que du coup, il faut bien griffer un petit peu au passage, parce que c'est des chiens de garde, quoi, dans les médias dominants. Et donc du coup, bah, par exemple, j'ai été voir Léa Salamé et Nicolas Demorand l'interviewer. Bah, ils ont passé la première partie de l'interview à dire à quel point Piketty était un grand homme. Et puis après, ils l'ont attaqué. Si on applique vos idées, les riches vont partir en emportant avec eux le capital qu'ils auraient pu investir en France. Une taxation un peu trop sourcilleuse du grand capitalisme ne peut nous mener qu'à la ruine et au chômage. Dans C'est dans l'air, j'ai regardé aussi, c'était un peu plus subtil. Ils ont fait un truc un peu plus malin. On a interrogé Stéphane Richard, le patron d'Orange. On lui a demandé son avis sur le bouquin de Piketty qu'il n'avait pas encore lu. Richard a expliqué qu'une taxation trop rigoureuse des grands patrons conduira la France à la ruine et au chômage. Comme c'est surprenant. Et puis du coup, subtilité de C'est dans l'air, on demande à Piketty son avis sur l'avis de Stéphane Richard sur Piketty. Et là, on rentre dans le paradoxe de l'idéologie, là où je voulais en venir en fait. Pourquoi des journalistes se sentent obligés de défendre les avantages d'une poignée de milliardaires comme Stéphane Richard? Et alors, d'ailleurs, ça n'a pas échappé à Piketty, hein, il l'a souligné à Piketty. Et là, on est exactement au cœur de ce que Piketty, d'après ce qu'on raconte, parce que moi je ne l'ai pas lu, hein, 1236 pages, c'est pas pour tout de suite hein, que je la fais la chronique, comment on est parvenu à rendre acceptables des inégalités complètement démesurées. Marx, à l'époque, avait bien vu le problème. Pourquoi le système d'accumulation capitaliste, qui permet à un petit nombre de s'enrichir de manière incroyable au détriment du plus grand nombre, est accepté alors même que, à l'époque de Marx, on commence à donner des droits politiques à tous. Et du coup, il avait dû inventer un truc, l'idéologie. Un ensemble de croyances qui ont pour but de justifier un ordre social aux yeux de ceux qui en bénéficient, évidemment, mais aussi aux yeux de ceux qui en bénéficient pas, et qui les conduisent, autre concept marxiste, à l'aliénation. L'idéologie dominante à l'époque de Marx, elle s'appelait l'économie politique. Justifier l'extension du marché à toutes les sphères de la société et l'interdiction des organisations syndicales et des aides sociales. Mais cette notion a été à son tour critiquée. Selon Karl Popper, grand philosophe, celui qui a recours à la notion d'idéologie pour expliquer pourquoi ses adversaires le critiquent se permet une facilité qui l'empêche d'être un vrai scientifique. Il énonce une thèse irréfutable et donc invérifiable. Popper y vise en particulier Marx. Pour lui, le marxisme n'est pas et ne peut pas être scientifique, quoi qu'en dise Marx. Marx dénonce l'oppression capitaliste et toute personne qui s'opposerait à son discours est a priori, dans la vision marxiste, influencée par une idéologie qui l'empêche de voir la réalité que Marx montre. Marx a toujours raison, d'après Marx. C'est pas scientifique. Par un retournement assez ironique des choses, aujourd'hui, tout marxiste est traité d'idéologue. Son idéologie l'empêcherait de voir la réalité que chacun peut constater. L'URSS s'est effondrée. Toute forme d'opposition au capitalisme conduit nécessairement à la déchéance, à la ruine et au chômage. Le capitalisme a permis le développement d'une classe moyenne qui vit bien. Piketty, qui pourtant s'appuie sur des faits statistiques précis pour dénoncer le développement des inégalités, subit cette accusation comme les autres. Il est traité d'utopiste, de falsificateur, d'ignorant, par des gens qui n'ont pas le quart de son savoir et qui n'ont jamais fait le travail qu'il est capable de faire. Le but n'est pas de défendre Piketty envers et contre tout, ce qui est critiquable à mon avis, mais de constater la persistance d'une idéologie au service du capitalisme après 150 ans de critique. Et donc du coup, je me suis donné comme objectif pour les prochaines chroniques, les prochaines émissions, d'essayer de voir à quoi ressemble l'idéologie du capitalisme aujourd'hui, comment elle s'insinue, comment elle se perpétue. Et c'est ce qu'on verra le mois prochain. To be continued.
Eh bien, une très jolie chronique qui promet d'autres chroniques bien faciles à écouter et à apprendre. On va continuer sur le combat contre le capitalisme parce que cette année 2018-2019, c'était les 20 ans de l'association ATTAC qui, entre autres, essaye de réformer le capitalisme ou de dessouder le capitalisme, en tout cas de le changer complètement. On écoute Annick Coupé qui nous parle des 20 ans d'ATTAC et d'un petit livre qui s'appelle L'abécédaire de l'intermondialisme. C'était sur TV5 Monde en août 2018. Cette semaine dans la presse dominante,
ATTAC est née il y a 20 ans, 20 ans que cette association altermondialiste s'engage et dénonce les dérives de la finance, entre autres. Alors pour fêter cet anniversaire, l'ONG sort cet abécédaire engagé, un livre paru aux éditions Les Liens qui Libèrent, un abécédaire que nous allons feuilleter avec vous. Annie Coupé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la secrétaire générale d'ATTAC, alors le voici cet abécédaire, on l'a vu, il est un bel objet, un peu vintage, ouais. Voilà, il est ici. Alors la première entrée, c'est évidemment altermondialisme, un mouvement des idées, des combats, qu'est-ce qu'il en reste 20 ans après ?
Écoutez, il y a 20 ans, quand ce qu'on appelle le mouvement altermondialiste est apparu, notamment avec le premier forum social mondial à Porto Alegre, et puis plein de rendez-vous comme ça, en fait, on était dans une période où on nous vendait la mondialisation comme une mondialisation heureuse qui allait faire la prospérité des peuples dans le monde. 20 ans après, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, les inégalités entre les pays et entre les peuples se sont creusées, et y compris dans un pays comme la France, les inégalités se sont aussi creusées et aggravées. Donc en fait, cette mondialisation qu'on nous présentait comme un peu le bonheur de l'humanité, en fait, n'a pas du tout fonctionné. Alors le mouvement altermondialiste, il est né de cette hypothèse-là, parce qu'à l'époque, on dénonçait cette mondialisation qui, de notre point de vue, était faite en fait pour une minorité, et en fait, malheureusement, on avait raison. Alors 20 ans après, le mouvement, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il s'essouffle, parce qu'il n'y a plus ces grands rendez-vous.
Oui, ces grands forums.
Voilà, même s'il y a eu un forum social mondial à Salvador de Bahia cette année, qui a été un succès, en tout cas avec une grosse présence altermondialiste, hein, avec différents mouvements, etc. Mais ça n'a plus cette visibilité. Et pourtant, quand on regarde la situation dans le monde, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de luttes, de mouvements sociaux, de résistance dans le monde.
Donc, alors comment vous l'expliquez ? C'est vrai qu'il y avait des figures, des personnalités, d'ailleurs, qui sont dans ce livre. On pense à Naomi Klein, à José Bové. Il n'y a pas une nouvelle génération qui a pris le relais, qui est emblématique, médiatique ?
Moi, je crois que si, il y a une nouvelle génération, parce que dans ces rendez-vous qui existent, même s'ils sont moins visibles, on voit beaucoup de nouveaux et de nouvelles et des jeunes. Alors, ils n'ont peut-être pas eu le temps de se faire des noms. Je pense qu'aussi, il y a le fait qu'il y a une lutte, quelque part, politique, culturelle au niveau international. C'est-à-dire, par exemple, avec l'élection de Trump et avec les discours de Trump qui, à la fois, défend un libéralisme extrêmement fort et en même temps du protectionnisme, etc. Donc, il brouille aussi les cartes. Et je dirais aussi qu'on est dans une situation où la montée des colères des peuples en Europe, par exemple, se transforme dans certains pays par des politiques xénophobes, des politiques réactionnaires, des politiques racistes parfois. Donc on voit bien, on est dans ce débat un peu quel est l'avenir du monde. Et je rajoute à ça la crise climatique, parce que si vous prenez ce qui s'est passé cet été avec l'emballement du réchauffement climatique, eh bien on voit bien que les choses s'accélèrent d'une certaine façon et que peut-être ce qu'on a appelé le mouvement altermondialiste et les grandes voies du mouvement altermondialiste, eh bien il y a sans doute besoin que ça réémerge d'une façon ou d'une autre et avec de nouvelles voix, parce qu'il y a des plus jeunes qui s'engagent.
Mais est-ce qu'en France, votre discours ou même votre cause n'a pas été récupéré par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon ?
Alors écoutez, la France insoumise, je pense que c'est un mouvement qui est politique, qui a grossi. Je pense que la France insoumise a eu peut-être la tentation, en tous les cas, je dirais pas de récupérer finalement, que des mouvements politiques reprennent des thèmes portés par les mouvements sociaux et par le mouvement altermondialiste ou par ATTAC, d'une certaine façon, tant mieux. Ça veut dire que nos points de vue diffusent dans la société. Pour autant, nous restons persuadés qu'il y a besoin, à côté des organisations politiques, quelles qu'elles soient, de mouvements sociaux totalement indépendants de ces organisations politiques. Ça nous semble fondamental, même si on peut être dans la discussion, même si on peut être dans le débat. Mais en tous les cas, nous voulons garder notre autonomie de mouvement social sans être lié à un parti politique, quel qu'il soit.
Et ATTAC a mené des batailles contre le CETA, contre l'ALENA. Là, on voit que cet accord commercial, le libre-échange commercial nord-américain est en train d'être renégocié. Le Canada est venu. A priori, ils sont en train de trouver ce nouvel accord, et peut-être pour demain. Est-ce qu'on n'est pas un peu découragé de voir que malgré tout, malgré les combats, malgré les luttes, eh bien, le libéralisme est bien là ?
Bah, écoutez, oui, ça pourrait être décourageant, effectivement. Mais en même temps, encore une fois, quand vous regardez très concrètement tout ce qui se passe sur le terrain, enfin, localement, un des modèles nerf d'attaque et du mouvement altermondialiste, c'était du local au global et du global au local. Et effectivement, quand on regarde sur le terrain, mais même en France, par exemple, il y a plein de choses qui se passent localement. Alors, elles ne sont pas forcément très visibles, mais il y a plein d'expérimentations pour porter des alternatives face aux politiques ultralibérales, mais face aussi sur les enjeux climatiques ou sur la question des migrants, par exemple la question de la solidarité avec les migrants.
Mais pourquoi justement, on a vu des sondages qui montrent que les Français trouvent qu'il y a trop de migrants, qu'ils sont inquiets. Comment vous l'expliquez ?
Bah, écoutez, au plus haut niveau de l'État, que ce soit avec le gouvernement actuel, mais même avec les gouvernements précédents, et je me souviens par exemple des discours de M. Valls dans le gouvernement précédent, je veux dire, quand ces paroles-là sont dites au plus haut niveau de l'État, bah, effectivement, ça libère peut-être des peurs, des angoisses de nos concitoyens, mais en même temps ce qu'on voit c'est que concrètement il y a vraiment de la solidarité qui s'organise avec les migrants, même si on n'en parle pas beaucoup toujours dans les grands médias.
Et votre nom, votre logo vient de Tobin, hein, de la taxe Tobin, hein, taxe sur les transitions financières. À un moment on y a cru, là ensemble on a l'impression que le combat est perdu, c'est ce que vous ressentez ou pas?
Bah écoutez, non, alors je suis peut-être quelqu'un qui continue à vouloir se battre malgré les difficultés, mais en fait par exemple les actions qu'a menées Attac sous forme d'actions de désobéissance civique devant Apple par exemple, devant une de ces grandes multinationales qui pratiquent comme sport l'évasion fiscale à un très haut niveau, ou devant les banques, eh bien montrent que ça a de l'écho. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on mène ce type d'action, eh bien, effectivement, je pense qu'on est compris, parce que quand on montre qu'il y a 80 milliards d'évasion fiscale chaque année, c'est autant d'argent qu'il y a de moins dans les publics pour faire une politique de la santé, pour faire une politique de l'éducation. Donc, je pense que c'est un discours qui marche. En même temps, en face de nous, on a des forces qui, effectivement, sont toujours là pour défendre les intérêts, les privilèges d'une minorité.
Alors, de qui vous voulez parler, de quelles forces? Les lobbies?
Écoutez, les lobbies des multinationales, les lobbies, notamment, aussi, par exemple, on l'a vu sur les questions environnementales qui défendent les produits nocifs pour la santé. Enfin, on voit bien, on sait que l'argent qui est mis et le nombre de lobbyistes, par exemple, à Bruxelles, c'est quelque chose de dément. C'est-à-dire, par rapport aux mouvements sociaux qui se battent, on n'est pas dans le même rapport.
Mais là, quand vous voyez Nicolas Hulot qui démissionne, ouais. Donc le ministre le ministre démissionnaire de la transition écologique et solidaire, qui démissionne justement en dénonçant les lobbies, et que finalement, a priori, il n'y a pas l'air d'avoir d'électricité. Trop choc, vous n'êtes pas là aussi. Est-ce que vous pensez que vos combats sont entendus?
Bah écoutez, en tous les cas, c'est grave. C'est-à-dire que la démission de Nicolas Hulot montre bien qu'il y a incompatibilité entre ce qu'il prétendait porter et la politique menée par ce gouvernement de M. Macron. Donc il y a vraiment cette rupture, elle montre ça. Donc c'est une vraie crise parce que Emmanuel Macron avait quand même pris des engagements, et le gouvernement précédent dans lequel il était avait pris des engagements au moment de la COP21, et ces engagements ne sont pas du tout respectés. Même les politiques actuelles tournent le dos à ça. Bon, alors même qu'il y a un emballement climatique qui est plus acceptable, et je crois qu'il y a une prise de conscience qui est difficile, parce que ça veut dire que ça touche à la vie quotidienne de chacun et de chacune, mais malgré tout, il y a une prise de conscience, et si le gouvernement français et les autres gouvernements ne mènent pas une politique à la hauteur de ces enjeux, non seulement on va à la catastrophe, mais c'est une catastrophe qui va toucher tout le monde.
Mais est-ce que vous arrivez encore à toucher l'opinion publique? On a vu que même les syndicats en France ont du mal à mobiliser. Comment faire? Est-ce que vous la voyez, cette mobilisation? Comment elle peut se traduire?
Écoutez, je suis pas devin, je sais très bien, ma longue expérience, que je suis pas toute jeune, montre qu'on peut jamais savoir quand une mobilisation va prendre et sur quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, un mois avant mai 68, on disait la France s'ennuie. Avant le mouvement social de décembre 95, franchement, un mois avant, vous m'auriez interrogé, je ne vous aurais pas prévu un.
Mais là, il y a une entrée, une nuit debout. Et une nuit debout, finalement, ça n'a pas donné lieu à beaucoup de résultats.
Oui, pas immédiatement. Effectivement, la loi travail est passée, et avec tout ce que ça veut dire. Mais en même temps, des mouvements comme nuit debout, je pense, irriguent la société, les plus jeunes qui se posent des questions, qui se construisent. Et ça ressortira un jour ou l'autre, j'en suis persuadée.
Et vous l'avez vu dans cette première université que vous avez organisée?
Bah, écoutez, l'université, cette année, effectivement, Attac a l'habitude de faire des universités. Mais cette année, c'était l'université des mouvements sociaux. Non seulement il y a eu une affluence importante, puisqu'on était à plus de 2200 participants, mais surtout une diversité, et notamment, une relève générationnelle, ce qui pour moi est évidemment décisif, et avec l'idée de aucun mouvement social n'a la réponse à lui tout seul. Aucun syndicat, aucune ONG, aucune association n'a la réponse à tous les défis qui nous sont posés quand on veut combattre effectivement le libéralisme, le dérèglement climatique et apporter des réponses alternatives.
Merci Annie Coupé d'être venue sur le plateau 64 minutes. L'ABCDR engagé d'altermondialisme à zapatisme, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent.
Yannick et Courage, nous allons en venir à vous de ces cochons de capitalistes. Et dans le cochon, tout est bon, c'est ce que nous chante Juliette. Fréquence Paris Pluriel, 106.3, vous écoutez Mode d'emploi. Et nous, c'est l'heure des chroniques de Jean-Marc, qui va nous parler de la première femme battue.
En ces temps de disette intellectuelle, les cadors de la majorité qui peinent à mettre en lumière un bilan, un non-programme et des élus sans valeur, pensent avoir trouvé des martingales électorales avec deux sujets dont ils se contrefoutent, mais qui présentent bien. Le premier, ce sont les femmes battues. Ou tuer, c'est encore mieux, c'est encore plus porteur. Le deuxième, bien sûr, c'est très à la mode, c'est dans le vent, c'est l'écologie. Petit problème, dans un cas comme dans l'autre, ces sujets, au-delà des grands discours et de la super communication gouvernementale, sont plutôt des révélateurs de la politique catastrophique de la majorité qu'autre chose. Pourquoi ? En effet, la France, grand pays tellement puissant et tellement riche quand il s'agit d'organiser des JO et des G20, ne parvient-il pas à juguler ce phénomène des féminismes ? Tout simplement, peut-être, parce que la politique menée est l'inverse exact de ce qu'il faut faire. Endiguer les féminicides demanderait en effet une concertation, une écoute permanente entre les pouvoirs publics, les administrations responsables et les associations. Or, le propre de ce gouvernement est d'être dur de la feuille, comme de refuser toute forme de concertation réelle, à quelque niveau que ce soit. Endiguer les féminicides demanderait un effort éducatif important. Or, les budgets alloués à l'éducation ne progressent pas, bien au contraire, comme chacun peut le constater. Endiguer les féminicides demanderait d'énormes moyens alloués à l'aide sociale, aux hôpitaux, foyers, aux associations. Or, dans tous ces domaines, le gouvernement a taillé sévèrement dans les effectifs et les budgets, au nom des dogmes libéraux, et se prépare à le faire encore. Endiguer les féminicides demanderait une police et une justice efficaces et rapides. Or, les budgets alloués à la justice sont ridicules. La justice française, l'une des plus mal loties de tous les pays développés. La police, de toute façon débordée totalement, est concentrée depuis des mois et des mois par le pouvoir sur des missions de répression des mouvements sociaux qui la rendent incapable d'exercer ses vraies missions. C'est pourquoi les larmes de crocodile de Philippe ou les envolées de l'insupportable Schiappa n'y changeront pas grand-chose. Les femmes continueront de mourir, faute d'aide, de secours, de lieu d'accueil. Mais l'essentiel n'est-il pas qu'elle puisse servir, un temps du moins, à redorer le terne blason d'une majorité immorale. L'écologie, par ailleurs, est aussi un chapitre croquignolet de la pensée opportuniste des marcheurs, dont le fort credo écologiste est apparu au lendemain des européennes à cause du bon score des Verts. Cette majorité, qui a réussi à décourager Hulot, dont le Premier ministre est un recyclé d'Areva, dont le Président a encouragé, quand il était ministre, le remplacement des trains par des autocars, etc., peut essayer de se verdir à des fins électorales. Mais son action favorise toujours, pour finir, les lobbies, qu'il s'agisse de cette industrie, de la chimie ou de la chasse, au détriment des intérêts des citoyens. Cette majorité qui est incapable d'interdire le glyphosate et qui propose une distance de sécurité dérisoire de 10 à 15 mètres pour éviter les projections toxiques des champs vers les habitations se vautre dans le ridicule. Cette majorité qui recuse tout bilan sur le nucléaire et laisse continuer l'exploitation de centrales dangereuses, comme la construction du désastreux et coûteux EPR, se vautre dans le ridicule. Cette majorité qui détricote la loi littorale, comme les règles d'obtention du permis de construire pour favoriser le bétonnage, se vautre dans le ridicule. Cette majorité qui s'est donné le beau rôle en mettant un terme à l'impossible projet de Notre-Dame-des-Landes, n'en continue pas moins le projet d'enfouissement de Bure et donne sa bénédiction au projet démentiel, autant qu'inutile, de l'ami du président dans le triangle de Gonesse. Si, vous savez, c'est ce projet pharaonique d'un centre commercial géant, un de plus, qui ne servira à rien de plus que les autres, dans le nord de Paris, qui ferait disparaître des centaines d'hectares des meilleures terres agricoles d'Île-de-France, plus, pour faire bonne mesure, quelques bouts de forêt. Cette majorité se vautre dans le ridicule. Cette majorité qui accepte sans mot dire la vente d'une forêt entière aux industriels chinois, qui, comme chacun sait, ont les meilleures intentions écologiques du monde, se vautre dans le ridicule. Cette majorité qui se prépare à dépenser des milliards pour développer des voitures électriques, qui sont une bénédiction pour l'industrie automobile et pour l'industrie nucléaire, mais un non-sens écologique, ne donne pas un iota, pas un petit frelin pour les énergies renouvelables, qui sont de véritables alliés avec de l'écologie. Bref, on pourrait multiplier les exemples à l'infini sur l'absolue contradiction entre ce gouvernement et l'écologie. Mais, pour finir, qu'il s'agisse donc du meurtre des femmes ou de l'écologie, il n'y a plus qu'à espérer deux choses. Un, que les Français ne seront pas dupes au moment de voter. Deux, que ces mêmes Français mettront dehors cette majorité lamentable.
Et on continue avec les chroniques de Jean-Marc qui va nous faire la comparaison des différents homos. Vous savez, l'homo sapiens, l'homo sexuel, enfin, l'homo quoi.
Ah, l'homosexualité et l'homophobie, quel beau sujet pour une belle discussion de comptoir. Surtout si cela s'ajoute à la dernière polémique en date dans le monde si doux, si tolérant du football. J'étais donc au comptoir l'autre jour à boire un petit vin. Quand le patron et l'un de ses clients commençaient à décrypter l'actualité avec un bon sens et une verve infinie, dont je vous livre ici quelques extraits, la substantifique moelle. Ouvrez les guillemets. Mais s'ils arrêtent les matchs à chaque fois qu'on dit enculé, on ne pourra plus jouer. Ou, tous les supporters, ils disent, oh, ils sont enculés, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on dit Doris la saucisse? Ouais, mais c'est pédé. Ils vont encore dire la saucisse, tu vois, ouais, des fois qu'on se la mettrait, la saucisse. Puis l'argument fatal. De toutes les façons, c'est parce que Macron, il est pédé. Ils veulent lui faire plaisir et il nous emmerde pour rien. Je pourrais continuer, mais hélas, ce discours de la méthode s'est interrompu car le client philosophe devait aller bosser. Quel dommage.
Quel dommage, mais l'humour de Jean-Marc nous continue avec de la poésie ce coup-ci, une série de paix et pesticides.
Il nous est sans doute arrivé, comme à moi, de vous trouver dans un bus bondé et d'avoir quelqu'un qui, discrètement mais avec une mâle assurance, lâche un paix d'envergure. Et vous avez certainement, dans ce cas précis, cherché à vous éloigner de la zone incriminée. 5 ou 6 mètres loin, car dans un bus rempli, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Dépité, vous avez alors constaté que le paix, en dépit de l'absence de brise caractéristique des bus bondés, vous pourchassait jusque dans cette retraite illusoire. Eh bien, il faut croire que les membres du gouvernement, comme les cadors de la FNSEA, n'ont jamais pris le bus en compagnie d'un péteur, sans quoi ils n'auraient jamais osé déclarer que la distance de 5 à 10 mètres comme des habitations pour la pulvérisation des pesticides était suffisante. Mais vous avez certainement eu vent de cette histoire.
Ha 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 ! On continue avec de l'humour Jean-Marc Rien, un Macron sinon rien.
En ces temps post- et préélectoraux, la France politique est coincée entre le bilan désolant des européennes, les manœuvres de base politique en vue des municipales et la préparation discrète, mais non moins réelle, de la prochaine présidentielle. Au milieu de ce capharnaüm sans intérêt, la majorité hétéroclite des arrêtés du président est en ébullition, afin évidemment de capter des électeurs. Malgré la crise des gilets jaunes, il est profond et non réglé, malgré les grosses saloperies qui arrivent comme les retraites et les privatisations, bien évidemment. Le problème de ce parti, la République en marche, est que le seul programme réel de ce conglomérat est d'avoir du pouvoir afin de servir toujours et encore ceux qui n'ont besoin de rien, les riches, en déshabillant les pauvres. Évidemment, ce n'est pas très vendeur. Pourtant, le paradoxe est là. Le petit parti du petit Macron a paradoxalement des chances de faire des scores honorables. Non parce que son non-programme ou ses non-candidats seraient bons, mais parce que la droite et la gauche ont imposé et que le système politique permet, quelle que soit l'abstention et le vote blanc, de dégager des majorités arithmétiques qui ne représentent plus rien. En résumé et en bon français, nous sommes coincés dans un système de merde qui permet aux minables, aux incompétents, aux mafieux et aux arrivistes, certains arrivent à cumuler 3 ou 4 de ces qualités, de prendre et de conserver le pouvoir. Youpi !
Or, il y a quand même une opposition, n'oublions pas, et cet été, elle était symbolisée par les décrocheurs.
Les décrocheurs de portraits de Macron ont commencé à passer devant les tribunaux correctionnels. Les militants climatiques, en particulier, lassés de l'inertie des pouvoirs publics et de la majorité LREM, ont décidé il y a quelques mois, pour alerter l'opinion, de décrocher des portraits officiels du président, sans se cacher, et même souvent en filmant l'événement. Dans n'importe quelle démocratie raisonnable, un simple contrôle d'identité suivi d'une remise des portraits décrochés à la maréchaussée aurait suffi. Mais pas en France, sous le règne du petit Macron. Ici, dans notre belle France, on encombre encore un peu plus la justice pour faire un procès politique ridicule. On recueille l'ADN de ces dangereux terroristes décrocheurs de photos qui risquent des amendes jusqu'à 45 000 euros et des peines de prison, sans doute avec sursis tout de même. Nous l'avons échappé belle. Pour un peu, ce crime de lèse Macron aurait pu les conduire au pilori ou au gibet. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez suivre la chronique d'audience diffusée donc librement sur le site de Là-bas si j'y suis. Très bonne chronique qui fait heure par heure la chronique de cet événement imbécile et ridicule en Macronie.
Or, c'était les chroniques d'actualité de Jean-Marc qui n'est pas dans les studios, mais il aurait été là, il aurait évidemment salué l'incarcération de Patrick Galtani. Je cite Le Monde, ça fait trop envie de le lire. Il est marqué que Patrick Balkany a été condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale et a été immédiatement incarcéré suivant la réquisition du parquet. Il est arrivé en milieu d'après-midi à la prison de la Santé à Paris. Il va être placé en détention dans un quartier pour personnes vulnérables qui n'est toutefois pas un quartier spécifique pour VIP, selon une autre source proche du dossier. Alors, on termine par quelques points d'actualité. Un, c'est la reprise des cours de droit du travail le 7 octobre. Ces cours sont gratuits et ouverts à tous. Ils sont donnés depuis 2004 dans le cadre du réseau Stop Précarité des syndicalistes et juristes du travail bénévole. Ils reprennent, et ce sera tous les premiers lundis du mois d'octobre à juin, de 19h à 21h à la Bourse du Travail de Paris. Attention, c'est à l'annexe 67 rue de Turbicot au rez-de-chaussée. Ça commence donc le 7 octobre et ça portera pour le premier cours sur les prud'hommes, outils essentiels de la défense des travailleurs et dont la saisie est devenue de plus en plus difficile avec les intervenants Guillaume Cousin, avocat, Hélène Ménot et Rachel Spire, syndicalistes. Et si vous voulez plus de renseignements, vous téléphonez à Evelyne Perrin au 06 79 72 11 24. Une autre actualité et plus altermondialiste, c'est dans les semaines qui viennent, en octobre, il y aura des différents rounds de négociations à Genève et Vienne pour, à Genève, un traité sur les multinationales et droits humains. Alors, vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça. C'est assez surprenant parce que ce n'est pas un petit événement, c'est quand même l'ONU, oui, les Nations Unies, qui sont en train de négocier un traité sur les multinationales. Quelque chose qui n'a jamais été fait, alors que l'on voit progresser les multinationales dans leur importance. Quand même penser que la Chambre de commerce internationale a un truc bidule qui est en fait un lobby du secteur privé qui est devenu au statut officiel de observateur au même titre qu'un tout petit État comme l'était le Vatican et la Palestine. C'est le troisième observateur au sein de l'ONU. De cette place-là où il abonde en finance, en position forte, cette omniprésence des lobbies des grandes multinationales a quand même été peut-être prochainement empêché de se développer par un futur traité qui va être encore une fois discuté ce mois d'octobre. Alors pour soutenir, il y aura une semaine d'action, la semaine du 11 au 19 octobre. Ça s'appelle Flush Corporate Impunity, c'est-à-dire se débarrasser de l'impunité des multinationales. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez donc taper Semaine contre l'impunité des multinationales. Et pour terminer, on veut chaque fois qu'on aura l'occasion vous rappeler de signer le référendum d'initiative partagée pour la privatisation d'ADP. ADP, c'est-à-dire les aérodromes de Paris. On rappelle qu'ADP est un service public national où l'État est majoritaire et ça rapporte, oui, c'est un service public qui rapporte plus de 100 millions d'euros de dividendes au budget de l'État. On peut se demander pourquoi Macron veut le vendre au privé. Oui, pourquoi on se demande. D'autant que c'est une infrastructure stratégique, ça contrôle 14 aéroports civils d'Île-de-France. Ça permet d'avoir un contrôle sur ce qu'on fait. On rappelle que les États-Unis, l'Italie, l'Espagne ont gardé le contrôle public des aéroports. C'est un acteur francilien majeur pour la population, pour l'emploi. Ça gère 6700 hectares de terre. Il n'y a pas de raison de privatiser ADP. Si vous en êtes persuadé, il faut signer le référendum sur la privatisation d'ADP. On peut le faire par le site internet. Attention, avant de vous installer, munissez-vous de votre carte d'identité, de votre passeport ou de votre carte d'électeur. Et il faut aller sur le lien référendumintérieur.gouv soutien. Et il faut cliquer sur « Je soutiens » puis remplir tous les renseignements. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut aussi le faire par papier. Il faut un papier CERFA 15264-02 qu'on peut imprimer et qui doit être ensuite déposé à la mairie en mettant bien l'intitulé « Proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris ». Et on rend l'antenne à Gaël.
Merci Pierre. Voilà qui clôt notre émission Mode d'emploi, animée ce soir par Alex et Pierre au téléphone, Jean-Marc sur une bande magnétique joué devant le téléphone, Ludo à la technique, moi-même j'étais bien seul en studio. Dans ce monde de brut que nous chroniquons, il reste l'amour, et encore, ça fait mal aussi. C'est ce que chante Caetano Veloso avec Keisha.
Delicado, você pega e despreza.